Salut tout le monde,
ben, salut. Chers
passionnés de musique, bienvenue à La Perle d'écouteur, saison 4, épisode 3. Et puis, la saison, elle est bien partie, on est bien content. En plus, on vient de s'ajouter un réseau pour ceux qui veulent... en tout cas, il y en a de plus en plus qui commencent à nous écouter en podcast audio.
Oui.
Négligez pas quand même la version vidéo parce qu'on fait du montage. Puis
on est beau. Puis... à l'écran.
En tout cas, c'est le fun quand même. Il y a quand même des... On voit les pochettes, on voit les titres. Des fois, il y a des erratums là, qu'on se permet d'écrire. Ouais. Des sous de la gueule, peut-être un peu de mon co-animateur. Ce qu'on n'a pas nécessairement dans la version podcast audio.
Non, non.
Mais elle est le fun, la version podcast. Et puis, on est sur la plateforme maintenant Réseau, qui est, je pense, c'est quand même une nouvelle plateforme. Donc, merci les gars de nous accueillir.
Réseau RZO.
Oui, exactement. Donc, dans la section musique, bien entendu. J'essaie de la mettre dans la section humour aussi, puisqu'il y a bien des podcasts dans section humour qui devrait être dans Fait divers. je considère qu'on n'est pas pire drôle de temps à autre.
C'est pour ça qu'on voit pas l'image. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir l'image quand tu dis des choses comme ça.
Du malaise que tu crées en ce moment. Oui, c'est ça. Faut pas voir l'image. Alors, comme vous savez, depuis le début de la saison 4, on porte fièrement, oui, c'est cher simple Malte. Et puis, c'est sûr que là, les auditeurs, vous nous croyez quand même, on n'est pas des menteurs, mais ce qu'on trouvait le fun quand même cette semaine, c'est qu'on avait réussi à libérer le maestro de tout ça, qui est monsieur René Huard, qui est avec nous! Il est avec nous! On l'applaudit!
Comment tu t'appelles, toi?
Ben, j'ai trouvé Mathieu, comment?
C'est Azuc Lacroix.
Mathieu Lacroix,
hey, enchanté. Hey,
monsieur Huard, monsieur Huard.
Enchanté.
Moi, c'est,
et voilà,
c'est
ça René. Ça vient de sceller le partenariat qu'on a.
Eh oui, c'est la preuve vivante.
Merci René d'embarquer avec nous autres un podcast comme ça de musique, un podcast niché.
On fait plaisir.
On dirait que les podcasts
fait
sont pas mal tous nichés, mais c'est le fun que tu aies embarqué avec nous autres.
Oui.
Avec nous autres.
Nous autres.
Ben, ça me fait plaisir. Moi, quand un amateur de bière m'appelle et dit « Hey, j'ai un projet qui est un peu fou et ça prendrait de la bière », ben, il me semble que...
Ça va
voilà.
De soi.
On arrive.
Coucou.
C'est ça.
Mais c'est ton père qui nous trouve fou. C'est
ouais.
Pas...
Mon père a de l'expérience là-dedans, fait qu'il sait de quoi tu parles.
Ton père, là, j'ai bien aimé son commentaire. Ouais. Comment il s'appelle déjà?
Denis.
Denis. Bonjour, Denis.
Si t'écoutes ça, on t'aime.
On a ton gars avec nous.
Moi, t'es pas, je t'aime.
Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui?
Ben,
on va voir quoi?
Aujourd'hui, nous avons vous avez bu la Bomba tantôt, là?
Oui, reste un peu de
la Bomba double IPA.
Ah, je l'ai pas bu, ça, non?
Ah,
non?
Trop
garçon.
Non, mais attends. Yeah.
Garçon.
C'est moi qui l'ai.
Ah! OK. Double IPA.
Oui.
Et nous avons, aujourd'hui, nous avons aussi, pour commencer, mettons, une bonne soirée. Commençons avec une blonde d'abbaye. Une bière blonde comme les moines belges nous ont développé. Mm-hmm. C'est tout léger, c'est fruité. On a du plaisir. On
boit ça d'inspiration belge, bien entendu. C'est...
Faut toujours commencer par ouvrir le bouchon.
Tu n'as même pas amené un verre.
Mais non.
Ah non, il n'y a pas le temps de boire.
Moi, j'ai fait un meeting.
Ah, c'est vrai.
Façon, j'ai fait un meeting avec mes brasseurs tantôt. Fait que...
Ouais.
C'est plus le temps de boire.
Mais le meeting, c'était-tu parce que tu vas nous donner des cues, des nouvelles, un petit punch quelque part? On prend profit.
Ben, en fait, on a agrandi la brasserie par trois. On a multiplié la brasserie par trois dernièrement.
Félicitations.
Mais ça vient. Ça vient avec du travail.
Ben oui,
ça vient avec du travail. Fait que là, les cuves arrivent, on installe ça, il manque des tuyaux. Ah, oh, j'achète des tuyaux. T'sais, il manque des affaires. T'sais. Fait que c'est pour ça que j'ai l'air d'avoir 69 ans aujourd'hui, alors que j'en ai juste 29. T'sais,
c'est oui, un petit peu les tirés.
C'est le vendredi. Puis
t'es tombé attends, il y a de la peinture fraîche.
Ouais.
La peinture blanche. Oui,
effectivement.
C'est roulé dedans, je pense.
C'est
aussi.
Oui. Puis.
C'est un vendredi.
Ouais. Fait que. On allait où avec ça?
On allait les nouvelles.
Fait que c'est ça, on est là-dedans présentement, c'est un peu fou.
Ouais.
Fait que on travaille fort, on est en train d'ajouter un troisième chiffre de travail à la brasserie. T'sais, on est passé de un chiffre, 8 heures par jour, on va être pas mal 24 heures sur 24 en opération.
Wow. Excellent ça.
Ouais.
C'est excellent.
Ben écoute, si les profits suivent le souci, c'est bon, ça va être le fun.
Oui. Mais un gars intelligent qui saoule, il devient épais. Un épais qui saoule, ça c'est dangereux.
Ben, habituellement, ça reste aussi épais. Hein?
C'est ça. Bon, ouais. En tout cas.
Ça ressort pas toujours le meilleur de sa personne.
Bière aux folies, qu'est-ce qui se passe avec ça? Y a-t-il des nouvelles aussi à ce niveau-là?
Ben, bière aux folies, c'est, tu sais que c'est des bières qu'on s'amuse, c'est nos folies.
Ouais.
Tu sais, on s'amuse, on fait des bières que ça prend 2-3 ans à faire, ouais, vieillies en barrique de toutes sortes d'affaires, avec des levures sauvages, avec des fruits exotiques que les noms n'ont même pas encore été trouvés. Fait que on s'amuse à faire des choses comme ça, puis on sort ça. Ça, ben oui.
Ouais, okay,
d'ailleurs, on achète tous les produits, tous les fruits exotiques de Saint-Eustache.
Oui, oui.
On les consomme nous autres.
On connaît ça. Oui.
Fait que je sais pas. On parle toujours de fruits. Mais tout ça pour dire que on a c'est les produits Bière aux Folies. Puis là, on a vendu beaucoup. Cet automne, on a été obligé de mettre un petit peu un arrêt là-dessus parce qu'on était en pleine capacité de production, ça veut dire, tu sais, on peut faire tant de milliers de litres par année, puis là, on l'avait atteint.
Ouais.
Fait qu'il fallait qu'on continue avec nos produits qui roulent les plus. Faut pas qu'il en manque sur les tablettes, pas que les jeunes abandonnent. La Bomba, c'en est un.
Mm-hmm.
La Doble Mango,
oui,
avec, qui est une version Bomba, mais avec de la mangue. Mais un troc de mangue dedans, là, vraiment. Ouais, là. Okay. Quand on met la mangue, là, c'est des cubes de mangue qu'on met dans la cuve, là.
Puis elle est bonne en tabarnouche quand on va la boire chez Opti Medley simplement. Puis.
Ouais.
Ah, en peinte, là.
Non, plus en peinte.
Elle est plus en peinte.
Elle est plus en peinte. Elle est juste en verre parce qu'on a expérimenté sur les clients. Puis parce qu'on n'a plus le droit sur les animaux, là. T'sais, fait qu'on a expérimenté sur les clients, puis on s'est aperçu que ça affaiblit le client assez vite.
Ah oui, d'accord.
T'sais, fait que c'est. Puis on a eu des cas. On s'est dit, il faut faire quelque chose de... Faut tempérer le client. Ouais. Fait qu'on l'a mis juste au verre, puis on a créé une autre bière qui est la Mosaïque, qui est une autre bière bien parfumée de houblon, tout ça,
ouais,
mais à 5,9% d'alcool. Fait que le client devient tolérable jusqu'à la fin.
C'est bon. Okay. Bon, ben, René, quand même, notre show, c'est de parler de musique. Mais ouais, la bière, ça donne bien. On apprécie.
On en a toujours eu.
Ouais. C'est sûr que c'est conjoint. On en a tout le temps eu, effectivement. Ouais. On est tellement content de t'avoir, yes, mon cher René, parce que tu faisais partie quand même de nos préférés. Ça, c'était inévitable. Fait que là, que tu sois assis avec nous autres à côté. Puis en plus, on sait pas trop ce qu'on s'en va, mais on prépare quand même quelque chose. Hein, en fin d'année, ou peut-être, là.
Hein? Oui, hein? On va aller plus loin.
C'est sûr qu'on va aller plus loin. Pour l'instant, je t'invite à rester avec nous autres, mais maintenant... ciao!
OK, bye!
Parce que là, on n'a pas le choix de continuer, nous autres, là, parce que là, nous autres,
on va l'avoir,
qui est l'état critique. Et puis, qu'est-ce que c'est que l'état critique? Eh bien, l'état critique, c'est un album qui est sorti dernièrement, qui vient tout juste de sortir. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon ami Dave?
OK, on commence, là.
Oui, on commence. Oui.
Les
Oui, excuse-moi, c'est ça.
Oui.
L'intro était plus longue, ça valait la peine quand même, cette semaine. Et voilà. L'état critique, un album qui vient de sortir, donc nous, on en fait la critique, bien entendu, et cette semaine, on parle d'un certain Émile Groff, l'album Déboulé du ciel, 2 ans après sa visite à l'émission, parce que c'est 2 ans aussi après...
Notre premier invité hors entourage, là.
Hors entourage.
Ouais, c'était nos amis en test.
Oui, notre premier test.
Très sympathique.
Hey, on a reçu un gars de Ouattatata, full fan. Son premier album s'appelait Une belle poire, mûre à point, prête à donner sa vie à un grand appétit.
Oui.
Celui-là, maintenant, s'appelle Débouler vers le ciel, qui serait peut-être un pléonasme si jamais Émile Groff a écrit son album La tête à l'envers. Parce qu'effectivement, dans sa vie, ça l'a un petit peu déboulé, sans rentrer dans les détails. Ce qu'il fait avec Émile Groff, c'est sa force d'écriture. Émile se retrouve tout en subtilité. Au premier degré, ça semble tout simple, mais il y a tout le temps une genre de petite métaphore, un petit concept. Puis il y a beaucoup de mots dans ce qu'il raconte, un peu comme Pascal Picard, mais en plus le fun, je te dirais.
Oui. Puis il y a comme un
peu moins de mots.
Il y a comme du sketch aussi. Là. Il arrête à un moment donné de.
Il y a son chum Dubé, des relais qui vient faire un petit tour là-dessus. Il y en a long à dire, ce cher Émile Groff, étant donné que c'est des parcelles de la vie quotidienne. Encore une fois, on y échappe pas.
De sa dernière année.
De sa dernière année, qui a été assez tumultueuse. Ouais. Donc, oui, c'est justement, fait qu'il est un petit peu moins funny.
Exact. Oui. C'est comme doux, un album doux, rock années 70, un peu Pink Floyd, un peu harmonium, je trouve un peu.
Ouais, ben c'est quel album qui était venu nous parler, là, qui était venu au show, lui?
Ben c'était les Beach Boys, là, avec son histoire de crudité, là.
Les Pet Shop Sound.
Non, c'était voyons.
Rings Around the World, c'est quoi cet album-là? C'est,
ah oui, c'était Super Fury Animals.
C'est ça.
Ah,
Daniel ben, il est là-dedans, il se promène beaucoup.
Oui, oui, c'est ça, il est là-dessus. Mais si justement, au niveau de l'écriture, toujours, il y en a long à dire. Donc, long à dire aussi, comme ses mesures musicales, il étire souvent, c'est du 7. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il sera peut-être probablement jamais commercial. Est-ce que c'est ça qu'il souhaite?
C'est dommage.
C'est à toi de nous le dire. Ouais, mais tu sais, mettons, c'est quoi, là? C'est du 4-4.
Mais jamais sinon, Forget It, qui parle de ça.
Et c'est pour ça que je parle de ça. Exactement, oui, il en fait allusion à ça. Mais est-ce qu'il dit qu'il là-dedans, il va pas pogner? Ah oui, Forget It,
oui.
Le jeu de mots. Oui. Je t'abrutis, je viens de le catcher là. Voilà, donc, idem pour la musique aussi. Au premier degré, on pense tout le temps que c'est simple. Mais justement, on vient de parler des mesures, etc. Mm-hmm. Parce qu'à l'écoute, c'est simple. On n'a pas besoin de connaître la musique comme telle pour apprécier ce que Emil Groff nous offre. Mais pourtant, les oreilles plus assidu quand on s'y attend. Tu l'as mentionné un peu tantôt, effectivement, un peu de progressif, psychédélisme, etc. Mais tout dans la bonne humeur. En fait, tout ce qui était rock intéressant dans les années 70 québécois, puis même il y a une toune, la toune titre Déboulé vers le ciel, ça me fait penser au groupe Maninj, qui était justement
instrumental,
qui était instrumental. Ouais. Et puis ça me fait penser à ça. Et puis c'est la seule toune où Emil Groff, il y a quelqu'un qui a mis un baillon là, pour pas qu'il parle, il a réussi à se fermer à gueule cette toune là. Je sais pas comment t'as fait. Ah, c'est même pas vrai, il saute une phrase à un moment donné, c'est moi le plus fort.
Ouais. C'est ça.
Je sais pas pourquoi il dit
ça. C'est comme le medley d'anecdotes, là. Il parle du monde qui fume. Je fume du gazon, qui va être légal dans pas long. Il y a quelqu'un qui parle tout le temps là-dessus. Puis, il parle de ça, puis quand quelqu'un fume, puis qu'il jase tout le temps, puis il compte sa vie, ouais. À un moment donné, carrément dans la chanson, il sort parce qu'il est
plus capable d'entendre. Oui, un peu comme Feist. Oui,
c'est ça.
Ça allait passer.
Exact.
Il est plus capable d'entendre. Oui, non, mais super. Ben, c'est ça que je voulais dire.
Il y a plein de bouts de drôle. Il y en a un sur l'homosexualité non avoué d'un gars. Là.
Il dit, oui, on sort donc du garde-robe. On s'en fout que tu manges des testicules, tu sais. Mais c'est pour vrai, c'est ça, c'est quasiment aussi explicite que ça, mais c'est vraiment
c'est
drôle,
quoi, c'est bien écrit,
c'est intéressant, hein. C'est très sensible, donc voilà, ben, c'est comme l'être, il est sensible, il est drôle, et puis...
Il reviendra encore.
Il est foutrement talentueux, ben, j'essaie de l'avoir de temps à autre, il est occupé.
Bon.
Il est occupé, je pense qu'il y a à peu près...
Il y a 5 enfants, je pense.
Ah, j'allais dire 12. Je dirais qu'il y en a 12. La marmaille.
Donc, Joséphine, qui est une chanson sur Joséphine.
Oui, exactement. Donc, Emil Groff, on t'aime beaucoup. Musicalement, c'est très intéressant aussi.
Oui.
Pourquoi qu'on ne monte pas le CD? Tu travailles pourtant chez Post Canada. Tu m'avais dit qu'on était pour le recevoir ce soir. C'est pas fait. Je ne l'ai pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'as-tu vraiment malé?
On ne sait pas.
Alors, allons-y maintenant avec le prochain segment. Ben voilà, on invite quelqu'un qu'on a, nous, critiqué la semaine dernière. Et puis, ils sont un peu dans les mêmes sphères, peut-être, je te dirais.
Oui.
Dans les mêmes sphères.
Quand se revenger, peut-être, je sais pas.
Quand on parle d'honnêteté, de sensibilité, quand on parlait de la critique de Vasca, puis souvent, j'ai hâte d'y demander aussi si c'est... si tu de l'humour que tu fais? Non, hein.
Ben on sait pas, il va venir nous dire.
C'est de l'hypothèse. Ouais, ça doit être drôle, là. C'est drôle un peu, mais c'est pas nécessairement poussé dans un but humoristique tout le temps.
C'est ça, c'est pas fait pour ça.
C'est une façon drôle de m'exprimer.
Mais ça te dérange pas quand
non,
les
non,
gens.
Enfin,
ben non, c'est ça. Effectivement. OK, donc ben là, vous l'avez entendu parler. Je vous ai dit que c'était la semaine, l'épisode 2, on avait critiqué son album qui s'appelait Au Chute Niagara. Ce soir, il est accompagné de son bassiste. Ils vont nous parler de chacun de leurs albums qui leur tiennent à cœur ou qui leur ont peut-être influencé.
Uh-huh.
Frank Mascotte et Nicolas Blais!
Nous en sommes les gars. On va se tasser.
Alors, est-ce qu'on a décidé...
On a-tu nos albums, là, nous autres?
Ah non, on les a pas emmenés.
Ouais, sont on les a-tu?
On va les chercher.
Oh,
ils
sont là.
Parfait.
Ah ouais. Sublime. Faut-tu l'accoter quelque part?
Ben, premièrement, c'est juste pourquoi qu'on l'amène, c'est juste parce qu'on veut montrer aux gens que les passionnés de musique sont des gens aussi qui achètent, qui ont leur album, qui aiment bien ça avoir leur album. Puis tiens, on va commencer avec toi, Frank, tant qu'à ça. Je le vois-tu? Oui, c'est Cassonade, Stephen Faulkner, qu'on appelle.
Oui, Stephen Faulkner.
Toi, tu nous as emmené cet album-là. Vas-y donc.
OK, c'est un album que j'ai trouvé au Village des Valeurs il y a à peu près 15 ans. Je connaissais déjà Stephen Faulkner. J'avais un disque. Mes parents avaient un disque double de lui.
Okay.
Puis je connaissais le personnage parce que c'est un musicien qui a accompagné Plume la Traverse à partir de 1973. Début des années 80, je pense, même avant ça. Ouais, je pense que ça aurait été avant ça, peut-être.
Ouais, 73-74, il était avec.
Ben, il a fait ça. En 75, il a fait Pomme de route avec Plume. Il a fait de ses propres chansons sur Pomme de route. Puis il dit lui-même qu'il a peut-être brûlé de ses bonnes tunes sur cet album-là, finalement. Puis. Par la suite, ben, il a sorti cet album solo-là, Cassonade, qui est, selon moi, un album vraiment hot pour plein de raisons. Des super musiciens là-dessus. Stephen Faulkner, c'est un bon musicien aussi. Super bon guitariste, bon chanteur. Puis c'est un bon pianiste aussi. Puis il est accompagné avec pas mal les musiciens. Il y a beaucoup de musiciens qui jouent avec Plume. Rick Hayworth au pedal steel. Ce qui est quand même pas peu dire. Puis, c'est un album qui est poétique, qui peut être drôle, qui peut être très triste. C'est un album qui est. Ben, quand on dit triste country, je pense que c'est.
Ça va de soi.
Ça va de soi. Ouais. Puis.
Mais il est comme en net puis authentique, tu le sens, là.
Ouais.
Dans ses paroles, c'est comme.
C'est un album qui est bien fait, mais qui est pas. Qui flash pas tant que ça. C'est un album qui peut passer sous le radar, mais il est vraiment bien fait à la virgule près. Les textes, les arrangements musicaux, il y a des bouts que j'écoutais, je les réécoutais avant votre segment. Puis j'écoutais la chanson, je pense que c'est Où, qui a une fin qui ressemble à une pièce des Colocs qui était sur Dehors dans l'Arbre. Je suis certain que ça a probablement inspiré un peu.
Chante-moi un bout, je reconnais pas.
Je peux pas chanter non, ça. C'est non, tellement. Non. C'est...
Hey, chante, toi.
Non, mais.
Ouais, mais là,
je me souviens plus du restant des paroles, mais.
Ouais.
C'est pas vrai, j'ai
c'est... Pas. Mais c'est pas une chanson très connue, là, tu sais, mais. D'ailleurs, sur cet album-là, il y en a pas tant que ça des chansons connues.
Ouais, rapport.
Il y a Si j'avais un char.
Ben, oui. Si j'avais un char,
c'était son hit, mais il y a des chansons comme Je m'en vais reviendre.
En claquant la porte, Frank, c'est ma préférée. L'espèce de cha-cha, cha-cha.
Tango,
Elle est vraiment intéressante.
Ouais, c'est vraiment une bonne chanson.
Si j'avais un char, tout le monde la connaît, là, je pense.
Ouais. Si j'avais un char!
Je suis obligé de le dire. Je vais essayer de le dire vite, là, mais c'est pas ça m'a marqué. Moi, je savais même pas que c'était Cassonade qui chantait ce tune-là. Moi, on l'entend depuis qu'on est nés, tu sais. Mais il y avait un homeless, là, OK? Homeless en français.
Sans-abri.
Sans-abri. Wow. Et puis, il chantait ça. Puis, il était full heureux. C'était comme début printemps, là, à peu près en ce moment où on se parle. Puis, il était là. Si j'avais un char, puis moi, j'étais en voiture. Puis, on tourne la rue, puis il y a des ambulances. Puis, le gars, il s'était fait frapper. S'il y avait un char, ça serait peut-être un peu croisé. Puis cette toune-là, à cause de ça, m'a marqué. Oh, c'est triste, mais elle m'a marqué cette toune-là. Je ne sais pas si c'était Cassonade. Est-ce qu'il s'appelait Cassonade à cause du nickname ou c'est lui qui se l'est donné?
C'est
ça semble qu'il n'avait pas véhiculé ce.
Non, c'est Plume qui, je pense, donnait ce surnom-là. Puis. Comme il avait été connu avec ce surnom-là, ben il l'a gardé pour cet album-là. Après ça, j'ai entendu, il y a un super documentaire sur lui qui s'appelle « Je m'en vais reviendre ». Puis il dit lui-même que c'est que là, quand il a sorti son deuxième album, c'était à l'époque de Bel Gazou, des noms comme ça. Puis là, il voulait pas être associé à ce genre de nom-là. Fait qu'il a sorti son album sous Stephen Faulkner. Puis là, tout le monde pensait qu'il s'était donné un nom anglais. Puis c'est comme fait un peu... C'est fait un peu.
Je comprends pas.
Casé avec ça.
Ouais, c'est ça, qu'il a fallu qu'il garde.
Mais.
Ouais, vas-y donc.
Mais c'est ça. C'est un album. C'est un gars. Je suis certain que c'est un perfectionniste malgré le fait que. Bon, il a l'air un peu sloppy sur les côtés, tout ça, mais. Je pense vraiment que les gens, je vous le dis, là, vous devriez écouter cet album-là. Il est plus trouvable, OK? Ils l'ont pas sorti, la compagnie a fait faillite, ils l'ont pas sorti en disque. Donc, sur YouTube, vous pouvez le trouver. Si vous le trouvez en vinyle, si vous voyez qu'il est en spectacle, allez l'encourager.
C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est le fun que tu l'amènes. Tu le vois que ça existe, puis toi, tu l'as, puis c'est le fun. C'est vraiment, c'est une feuille de route. Donc, ça me stresse, c'était écœurant, vive la version 1h30, parce que ça n'a pas de sens. Là, on va y aller, on va quand même pas négliger notre deuxième invité qui est le bassiste.
Yes.
Depuis les débuts de Messicott.
Oh, ouais.
Et puis, tant qu'à ça, lui aussi vient nous apporter un album, puis je pense qu'on le voit ici. C'est Monsieur Jean Leloup, le Dôme, yes. Troisième album paru en 96. Parle-moi de ça, Nick.
20 minutes.
Ouais. 20 minutes? Ah, excellent. Ouais. Album vraiment bizarrement enregistré.
Mmh. Oui.
Plein de... Tu sais, faut comme tu joues avec le volume à chaque tune. Mmh. Ça, c'est sûr. Mmh. À cause de bien des affaires. Ouais. À cause de genre 7 preneurs de son, 7 studios, comme 25 musiciens.
Ouais.
Bien des affaires bizarrement faites.
Commencez à dire un peu notre genre.
Ouais, ben c'était comme, de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de musiciens qui parlent de cette époque-là puis qui disent pas trop qu'est-ce qui se passait, mais qui disent qu'il se passait bien des affaires bizarres. Fait que si t'écoutes les textes en partant...
Mais c'est sûr qu'un mastering, quand t'es à la messe, il sonne différent quand t'es
ouais.
Free Wage, genre.
C'est
ouais,
sûr.
Elle est bonne! Mets-la. Mais il y a James DiSalvio aussi sur...
James DiSalvio, t'as comme...
Lui, il était déjà plus peaufiné, mettons, tandis ouais. que Jean-Louis était encore un peu dans la période plus...
Ouais, ben c'est ça, il l'a enregistré comme sur 3-4 ans à peu près,
ouais.
avec c'est vraiment ça plein de musiciens différents, puis comme il disait, mettons que tu pouvais pas une journée changer de musicien, il en prenait un autre, puis ouais. ils gardaient des tracks, ils ont fait peut-être 150 versions de tunes à la fin pour garder... 14 tunes, mais ouais, ils ont comme sous. En tout cas, Jean Leloup, à la fin, il a repris tous les extraits qu'il y avait. Il a soumis ça à 5 personnes, il a fait un greatest hit de ça. Après ça, il a choisi ses versions.
Mm-hmm.
Ben, c'est vraiment comme. Bizarrement réalisé. Là.
Malgré tout, ça donnait un bon album.
Oui, ouais. vraiment, super
ouais, c'est ça,
bon.
Parce que là, à date, on parle
de la on parle de lucidité, que je te disais, il commençait à être troublé. Ben, il y a eu quand même des bonnes chansons sans d'encre. Là,
ouais.
La Lost My Baby, Le Monde est à pleurer, c'était sa lucidité.
Ouais.
Ben, t'écoutes Le Don puis Pigeon, là, il commençait
ouais, à. Oui, c'est ça, il y a des tunes vraiment plus bizarres, Sarah, vraiment bizarre. Ben, des tunes sur
les deux derrière, la drop station.
Ouais, exact.
Je m'en souviens,
je l'ai écouté en 96. Elle a été enregistrée live dans le sens que la drop station. Il y a pogné en même temps qu'enregistré à Toon, je pense. Parce que c'est vraiment weird. Là. C'est après ouais. ça que tu l'as retrouvé. Mais quand même, c'est un album qui est important pour toi. Pourquoi?
Ah ben moi, regarde, quand j'ai commencé à jouer de la bass, un des premiers albums, j'étais capable de mettre puis de jammer avec puis être capable de jouer au complet.
Mm-hmm.
Ouais.
Mais aussi les clips de cet album-là, moi c'était ça vraiment dans le temps. Je connaissais pas tant l'album en 96 quand il est sorti, mais tu sais, le clip de Le Monde est à pleurer,
ouais,
c'était Johnny Go,
ouais.
vraiment écœurant. Ouais. Lost My Baby est plus simple, mais encore là, Lost My Baby c'est une track
ouais.
That's it, c'est ça la version finale.
Puis je pense que le Dôme, c'est là qu'on voit aussi quand même où ce que Jean Leloup a pu aller.
Ouais.
C'est comme son album, ce qui s'est éclaté réellement.
Ouais, exact.
Puis, parce qu'il y a quand même un rappeur là-dessus, là, en plus.
Ouais.
C'est qui, là?
Ben, l'influence il s'est tenu un Grand Van 3000, puis ça a apparu dans cette époque-là.
Ouais, vraiment. Vrai.
Ouais, exact.
Non, effectivement. Mais... Ben, c'est deux albums importants. Nick, t'avais-tu quelque chose d'autre à signaler? Parce qu'il faut vraiment passer à autre chose.
Non, j'ai rien. C'est fait. Mon 20 minutes est terminé.
C'est désolé. c'est désolant. Donc, tantôt, on revoit ces gars-là en perfo,
ouais.
en tout cas Frank, puis en entrevue à l'intervalle, comme d'habitude, qui va être une semaine après la mise en ligne de cet épisode-là. Mais là, les gars, là, ciao! On n'a pas le choix! Ouais. Bye!
Hey, merci!
Merci beaucoup! On va y aller tout de suite maintenant avec le côté B. Qu'est-ce que c'est que le côté B? C'est qu'on reprend un album qui a été populaire dans les charts. Et puis, outre les singles, nous, on essaie de voir quel serait notre côté B, c'est-à-dire une tune qui aurait soit été meilleure ou équivalent.
Ouais, équivalent, exactement.
Et puis, je pense qu'on est rendu dans un espèce de nouveau concept où on célèbre les anniversaires, parce que là, on parle ce soir de Massive Attack, l'album Mezzanine, qui est sorti en 98 et puis qui fêtait son 20e anniversaire en ce mois-ci, le mois d'avril.
Oui.
Quelques albums marqueront la période charnière de la musique trip-hop, dont Massive Attack, troisième album du groupe de Bristol.
Ouais, il y avait comme une gang là, à Bristol, il y avait Party 7, Tricky. Là.
C'est ça.
C'est comme le début du trip-hop. Là,
c'est justement. Ça. Est-ce qu'ils sont courants, ces gens-là, qui font du trip-hop? Je veux dire, à un moment donné, c'est les médias qui mettent un nom.
Ouais. Mais non, mettons le grunge, là. Les employés.
Entre Nirvana, puis mettons Our Lady Peace, maintenant c'était tout grunge. Ouais. Pas sûr que ces gens-là faisaient, on fait du grunge. Exact. Fait que c'est à peu près la même chose, mais c'était dans cette mouvance-là, une mouvance un peu dark, un peu. Ils commençaient à mélanger des échantillons, un peu de rock, etc. C'est les débuts, fin 90, début 2000, c'était l'émergence, c'était c'est tout le monde qui un commençait mélange. À se mélanger, c'était super intéressant. Composé de 3D, hein, c'est son nickname, Robert Del Naja. Grant Marshall, qui s'appelait Daddy G, Andrew Valls aussi, qui s'appelait Mushroom, mais qui n'était pas sur ce disque-là, par exemple. Il venait de...
Même Trippie était avec eux avant.
Avant aussi, qui a lâché aussi. Puis quand on parle de trip-hop, moi, je considère beaucoup plus Massive Attack comme étant du dub.
Oui.
De la part des grosses
basses, le côté répétitif. C'est le fait qu'il y a, mettons, le tempo, le beat hip-hop, puis il y a du scratch un peu une fois de temps en temps. Fait que là, tu dis, OK... Ça touche un peu les éléments du hip-hop, fait que peut-être le lien de trip-hop a commencé comme ça.
C'est un album qui a été super important quand même. On va signaler maintenant les singles qui étaient Rising Sun, Teardrop, avec la chanteuse de Cocteau Twins, qui est la série House, là. Oui. Doctor House, oui. C'était cette tune-là qui ouvrait le show. Angel, qui était un autre single, et Inertia Creeps. Oui. Puis, moi, mes anines, cet album-là, je l'ai écouté quasiment pour la première fois vraiment avec des oreilles objectives pour préparer l'émission.
Oui.
Parce que souvent, on me la mettait dans mon parcours sexuel. Puis, on va baiser sur de la musique. Puis, j'ai ça, baiser sur de la musique. Je suis désolé pour les futurs et les anciens. Mais moi,
peut-être qu'il n'y en aura pas.
Hein?
Peut-être qu'il n'y en aura pas.
Non, mais moi, Ben non, merci! Hey, merci! Merci beaucoup. Mais moi, je suis pas dans un film, fait que j'ai pas besoin d'un soundtrack quand je suis en train de travailler.
OK.
Puis mes oreilles sont trop curieuses, anyway.
Ouais, fait que t'es déconcentré.
Ben oui, mais moi, je veux pas commencer à caresser un morceau puis critiquer une partenaire. En plus, avec Massive Attack, on dirait que ça devient gothique, qu'on serait obligé comme de se crisser de la cire chaude, à bougie, ça me tente pas.
Non, mais moi, qu'est-ce que je trouve qu'ils ont réussi à faire, c'est l'ambiance, justement, là, c'est Rippers, lourde, comme on dit, t'es tout le temps dans le boucan, là.
Ouais.
Puis c'est le même tout le long.
Ouais.
Puis on réussit à nous garder comme ça, puis justement, il y a une autre chanson avec Sarah J, je pense que ça s'appelle. Puis Elizabeth Fraser, je trouve que quand les filles chantent sur ces beats-là, c'est les meilleures tunes de là-bas.
Ouais.
Que juste du instru.
T'as-tu déjà baisé là-dessus, quoi?
Non, j'ai jamais essayé ça, mais.
Et toi, c'était sur The Box. Lui, c'était sur The Box. Closer Together! Closer Together! Ben, moi, mon single à moi, c'est Men.
Non, pas vos singles.
Men Next Door, parce que c'est un morceau, comme justement, un peu reggae, chanté par John Holt, le gars de Paragons. Et j'aime l'utilisation pour les oreilles qui ont pu.
Men Next Door, c'est bisexuel,
Un échantillon des Cure, la chanson sur l'album Two Imaginary Boys, 10-15 on a Saturday Night, ils l'ont échantillonné. Et puis, ben, en tout cas, je trouve que c'est celle que je préfère. Toi?
Moi, c'est Black Milk avec Elizabeth Fraser, justement.
Ben, ouais, c'est ça, c'était mon deuxième choix.
Le sample du début Obscure était 40, puis il y a quand même un genre de baseline à la Tribe Called Quest dedans.
Oui.
Très long.
C'est quand même un album qui a été important. Et,
je veux dire, ils ont-tu influencé Radiohead?
Tu penses? Oui. Pourquoi?
Je suis sûr que oui. Radiohead? Les sonorités, puis tout, là, je veux dire, comme. Moi, c'est une question que je me pose. Selon toi, en l'écoutant, tu penses pas.
Ok, je vais continuer à te la poser en tête, puis tu gobes du temps. On va y aller maintenant avec le dernier segment qui est le 45 tours. Et puis le 45 tours, c'est qu'on passe le plus rapidement possible des albums. Combien de temps il nous reste? Dis-nous ça. Au lieu de faire des faces de clown.
Écoute, genre 3 minutes.
Sinon, quoi?
Sinon, ça finit.
Non,
ça fait du jus.
Sinon, on va faire une émission plus longue.
Ok, tout simplement. Okay. Ça va pas sauter le message.
Ça va sauter éventuellement, il reste pas 10 minutes.
Ok.
Let's go. Tu me dis, on va y aller. 45 tours, thumbs up, thumbs down. Est-ce que c'est un album qu'on écoute une fois ou à peu près?
Ouais.
Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on pense les réécouter ou non? On va y aller tout de suite avec A Place to Bury Strangers, l'album Pinned. Et puis d'office, je dis oui, cinquième album du trio de Brooklyn, considéré chez certains le groupe rock le plus bruyant de New York. Donc effectivement, c'est considéré comme du noise rock, shoegaze, avec un beau feeling 80-90. En somme, A Place to Bury Strangers, c'est du son. Ça a l'air d'un gros crise de bol de céréales de All Brand, finalement. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, moi, j'ai dit non.
Ah, quel étonnement.
Eh oui. que j'ai eu du plaisir à écouter cet album. Vraiment.
Tu dis non, mais t'as eu du plaisir? Non, c'est ça.
Premièrement, mes yeux ont révulsé à l'envers comme sa pochette, là. On va l'avoir ici. Puis après ça, il y a comme.
Oui.
Il y a comme le bruit qui coulait de mes oreilles. Ah oui, c'est du sang qui sortait de mes oreilles. Avec le noise.
Hein? Ben non.
Ben oui. Ah, pas tant que ça. Il y en a en masse. L'affaire, je vais le répéter encore une fois. C'est quand un guitariste joue, là, puis qu'il a l'impression de jouer tout seul, puis il y a personne avec, puis il s'amuse sa guitare, puis qu'il arrête jamais. Ça m'intéresse pas. Ça l'enterre tout.
C'est le fait. Noise, c'est voulu pour ça.
Ouais, mais c'est voulu pour ça.
Mais... s'attendre à ce qu'il y ait des instruments qui prennent la place.
Pour saigner les oreilles.
Ben oui, mais moi, je trouve c'est ça. Ben oui, mais ce gars-là, il est...
Mais il y a eu des bons morceaux. Comme tu dis, années 90, ouais. Situation Changes avec Your Age and keep Moving On.
Oui.
Puis il y en a une qui est le BPM rapide, c'est quasiment du techno, là, Look Me in the Eyes.
Ministry, quasiment.
Ministry, c'est ça.
Ouais. Ce gars-là est propriétaire de Dead by Audio, qui est une série de... Il fait des pédales, justement. Fait qu'il tripe ses pédales.
Oui, oui.
Pédales qui s'appellent Absolute Destruction, Evil Filter, Supersonic Fuzz Gun. Puis je vous rappelle que c'est pas des noms de band metal, c'est des noms de pédales.
On est à 30 minutes.
C'est pas de problème. Fait que tant qu'on me fasse pas saigner du cul, ça va être parfait. Merci. On a un show à dévoiler. On va y aller maintenant avec Hills de Deconstruction, 12e album de Mark Oliver Everett, qui est un genre de Beck musicalement, parce qu'il mélangerait peut-être la pop. Il y a des arrangements cinématographiques là-dedans. C'est un indie rock.
Tantinet
expérimental. Encore une fois, des échantillons. Qu'est-ce qui se passe avec cette pancarte-là? C'est incroyable. Mais la voix du chanteur ressemble effectivement à Beck, mais deux semaines avant son opération pour son trachéo.
Oui, voix éraillée, mais qui donne un cachet chaleureux, je trouve.
Toi, t'as trouvé ça intéressant?
Non, moi j'ai bien aimé ça. C'est un feel-good album. J'avais découvert avec Noah King to the Soul en 96. La vidéo était excellente. Il volait dans les airs. Ça m'avait marqué. Puis, en plus, c'est écouter Shrek avec vos enfants. Ben, à chaque Shrek, 1, 2, 3, il y a une tune de Hills dedans.
C'est vrai?
Oui, puis elle est marquante. Je m'en souviens toutes que c'est. Oui,
exactement.
Puis c'est ça, il aime utiliser les échantillons, que j'aime bien ça, dans Rusty Pipe, Sweet Scorch Eyes, The Earth. Puis ça accentue sa musique, ça la rend encore plus.
Yeah. Cinématographique, tu sais, quand même.
Yeah,
il y a de l'intensité à
fleur de peau. Ça fait du bien, là.
Ça fait du bien, mais le pacing est pas bon, puis moi, tu sais comment je suis touché là-dessus.
Oui.
On dirait que ça a l'air d'une compile de B-sides, puis moi, ça me dérange.
C'est tout des tonnes à 3 minutes, ça passe bien.
Donc, moi, c'est long, par exemple, un peu à cause de ça. Je sais que Stéphane Delaurier, du canal auditif, il a bien aimé. On va aller maintenant avec Demorian. Demorian, l'album Into Zero, quatuor de mélodique metal dit moderne d'Allemagne. Et puis, pourquoi, une des raisons pourquoi je l'ai choisi, c'est que. On a choisi la dernière fois, Rivers of Nihil, qui est un band metal. Et puis Simon, M. Lacroix, nous dit tout le temps la même calice de Bebel quand j'y amène du métal. Je comprends rien, mais ils ont de l'air des bons musiciens. Mais j'aime pas ça quand ça gueule. Là, ça gueule pas. Ça gueule pas. Alors, je veux savoir ton opinion, M. Lacroix, là-dessus.
OK.
Ça gueule pas.
32 minutes.
J'ai dit non.
Ben voilà.
C'est un groupe suédois, le métal suédois. Suédois.
Allemagne?
Oui. Non, Suédois.
Allemagne?
OK. Du métal industriel, goth métal. Mais là, c'est l'inverse. Tu sais, quand tu dis que c'est inaudible, là il chante. Il chante, puis il est sur le bord du chanteur de chambre. Là. OK? Puis il est sur un beat. Tu sais, quand tu joues aux jeux vidéo, puis là, tu pognes contre un boss là, de fin de tableau, là, puis la toune la part de même, là, c'est ça. C'est ça avec un chanteur de chambre.
Non, ça, je la comprends pas, ça.
Oui, tu la comprends pas?
Non.
Ben, en tout cas, justement...
Pourquoi c'est répétitif? C'est pas répétitif.
Non, c'est pas répétitif, mais c'est sur le bord du cucu. Tu sais, il y a Europe, là, qui vient de la Suède, là. Je pense qu'il était influencé par eux autres. Puis des fois, il est fâché. Puis la musique est fâchée aussi. C'est pas mal ça. Il y a des sons de cathédrale et industriels, là, sont
fâchés. Il y a des sons. Exactement, il y a des sons.
Pourquoi t'aimais ça, c'est ça?
Ben non, j'ai dit non. Non, mais c'est un beau mélange quand même, c'est quand même bien fait. Il y a du blip-blop électronique, blip-blop. C'est des sons qui, des fois, ça ressemble à des oiseaux, ces sons-là, ou à du fromage à poutine. T'sais, des fois, on dirait que t'entends squick-squick. C'est vraiment un peu ridicule. On est loin de l'électrométal à la Ganges Tron, mes chers amis. Destroyer of Worlds, qui est la tune finale. Un beau soulagement, on fait enfin un, c'est fini, puis deux, elle était bonne. Il était temps. Mais ils appellent ça, eux autres, du métal moderne, on repassera. C'est pas parce que t'as acheté une pédale de distorsion en 2018. Que tu fais du moderne. Ton instrument est moderne, mais ce que tu fais, c'est du néo-métal 99.
Non,
c'est... Slipknot, machin.
Il y a souvent c'est base de Bon Jovi, mais fâché.
Non, pas tant que ça quand même. Là. Moi, je viens de te dire l'autre. Là.
Ouais, l'autre.
Est-ce qu'on est rendu au cinquième?
Quatrième.
Quatrième?
On
fait
parfait, il nous donne 3 minutes. Non, mais OK, vas-y.
Cali Uchis
Oui, Fuck aussi, en esprit.
Isolation.
Premier album, hein, après ces deux mixtapes. Oui. L'artiste qui était venu à l'émission, c'était dans son.
Grâce à elle, ouais,
dans son oreille chronique à elle. C'est grâce à elle,
effectivement. J'ai dit oui. Oui. Un gros oui, même.
Ben, moi aussi. On va mettre la smack. Yeah! Smack! Alright!
Fait que c'est du soul, du rap, du reggae, du doo-wop. Quand tu sais, on s'assinait sur le doo-wop.
Là, ça avec le doo-wop.
Non, mais tu sais, doo-wop, c'est les. Ouais, c'est comme les Platters, les Chillites de ce temps-là, Amy Winehouse, ok? On sent, ok? Erykah Badu, Jonah Monet, un peu dans. On voit plusieurs facettes de cette chanteuse-là.
Enfin, elle est mieux entourée, parce que moi, c'était ça que j'avais dit, c'est que c'était les mixtapes, ça garochait partout.
Ouais.
C'était un peu les débuts de, comme tu disais, MIA, ou ce que. Waouh, on va l'expérimenter. Moi, je sais pas comment écrire.
Un peu,
mais
moi,
là, c'est calmé parce qu'elle est entourée de Thundercat, Damon Albarn,
Kevin Parker,
Bootsy Collins quand même, Kevin Parker, Tame Impala, justement, tu viens de le dire.
Exactement.
Fait que là, ça donne une Kali Yoshi toujours en forme, toujours aussi originale, mais mieux cadrée. Les deux, ils ont un début puis ils ont une fin, tabarnak.
Oui.
Ça vaut la peine.
Peut-être une candidate à un des meilleurs albums de l'année.
Pour toi?
Oui.
Okay. Ben, moi, je dis oui, mais quand même, je ne penserais pas pour ça.
Il y a Wingardium aussi qui a travaillé avec Amy Winehouse, justement. Puis les deux tonnes qu'il a travaillé dessus, ça sonne. Et dans ces eaux-là.
Je pense que d'abord, on va finir avec le dernier. Puis on va passer à Akana Aksa, qui est excellent, par exemple.
Oui.
T'avais-tu dit oui pour ça?
Oui, j'ai dit oui parce que ben, c'est de la musique des Balkans, qu'on dirait.
Oui.
On dirait, c'est ça.
Oui.
C'est du violon, de l'accordéon, un peu de style turc, grec.
Oui, mais c'est de la musique du monde. Hein.
Ouais.
L'épellation musique du monde, souvent, c'est comme relié. On met ça, musique du monde, chez Sunrise ou whatever. Puis t'as Cuba, t'as Mexique, t'as ci, t'as ça. Mais de la vraie musique du monde, c'est du monde qui voyage. Ces deux-là, c'est un couple, j'aimerais dire, qui voyage autour du monde, qui ramasse des influences. Fait que c'est de la vraie musique du monde.
Ouais.
T'entends de tout là-dedans. C'est super bien construit. Parce que ce gars-là, c'est un ex. Neutral Milk Hotel.
Oui, c'est vrai.
Et voilà, donc il y a une structure quand même pop à tout ça. Fait que ce qui fait que son délire du monde est quand même concis et c'est super intéressant. On va terminer avec.
En passant, Joe Day Twitch, es-tu là? Day Roof, là?
Oui.
C'est à cause pour ça que tu l'as trouvé, ça? Ou. Tu peux-tu lâcher un peu Day Roof?
Me semblait que c'était écrit. Ça n'a pas rapport.
Ben non,
les Royals! Hey, il reste deux minutes!
Ah oui,
les Royal Pickles, l'album joué dans le trafic, c'est un album autoproduit. Ça a dû lui coûter cher, parce que je pense que c'est l'album le plus cher que j'ai jamais vu sur Bandcamp. 15$.
Oui.
Sur Bandcamp.
Ben ouais, mais
on parle de numérique, là.
Oui, mais ils sont beaucoup.
C'est sûr, c'est parce qu'ils sont beaucoup.
Ben oui, ils sont 8, je pense.
Fait qu'il faut qu'il y ait 10 cents chaque, mettons. Tu fais pas d'argent avec ça. C'est ridicule. J'ai eu un préjugé défavorable juste à cause du nom. Puis à cause que c'est Simon qui me l'a envoyé, il dit écoute ça cette semaine. C'est sûr que ça va être un préjugé défavorable. Je pensais que les Royal Pickles, c'était des genres de skaters tout croche qui faisaient du punk rock francophone. Pas bon, mais pas tout. C'est du ragtime folk. Dixie Swing de Montréal. Peu de groupes osent reprendre ce genre musical, puis eux autres le font super bien. Vocalement, ça manque un peu de richesse, je dirais.
Vocalement,
parce que tu sais, dans ce temps-là, il y avait toute la voix chevrotante, là, une petite voix des années 20.
Ouais, mais ça roule pas de même.
Non, c'est ça.
Ça roule pas de même.
C'est
swing, mais swing doux.
Au goût du jour. Est-ce que c'est parce son 6? Je parlais justement de concis tantôt. Est-ce que c'est par son 6? Puis ils veulent laisser parler tout le monde que les tunes n'ont pas d'allure?
Je trouve qu'ils n'ont pas d'allure.
Je trouve que ça n'a pas de but, ça n'a pas de fin, j'ai pas trop compris.
C'est un peu dur parce que moi.
Mais la toune calcul des itinéraires.
Tu vas dans un club, là, un club enfumé un peu, là, puis ça.
Mais lui, il a fumé,
Non, mais c'est.
Tout est en boucan.
Non, mais c'est ça que j'ai senti avec eux aussi. Là, t'es dans un petit bar, ils jouent, t'as des cuivres, le petit banjo, toi, tu passes une belle veillée.
Tu sais, le livre de la jungle, Mowgli, non, pas Mowgli, Balou.
Il faut arrêter.
Necessary.
Oui, oui, oui.
Finalement, j'ai été stressé tout le long. Merci à toute l'équipe d'avoir stressé autant. C'est très, très plaisant. Merci, à la prochaine.